When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tu vis le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Depuis quelques mois maintenant, je suis amenée à faire des formations auprès des travailleurs sociaux et des futurs travailleurs sociaux dans les centres de formation, notamment sur la question du genre et plus précisément des transidentités. Avant de commencer ces formations, je me posais réellement la question de où en étaient les travailleurs sociaux et les futurs travailleurs sociaux aujourd'hui sur la question des transidentités, la question du genre, des stéréotypes de genre, tout ça. J'étais sincèrement persuadée que dans le social, on était déjà loin dans la déconstruction, qu'on était déjà loin dans bousculer les stéréotypes de genre, tout ça. Alors j'ai créé des supports de formation en partant du principe que les travailleurs sociaux étaient déjà bien au courant de ce que ça voulait dire le genre, la différence entre le genre, le sexe, les stéréotypes, tout ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé à faire des formations, je me suis rendu compte qu'il fallait passer déjà du temps sur ce qu'étaient les stéréotypes de genre et de faire un constat ensemble de la société binaire dans laquelle on est et de parler de la différence entre les personnes cisgenres et les personnes transgenres, de parler de non-binarité avant même de parler des parcours de transition, de l'accompagnement des personnes en parcours de transition. Quelque part, c'est un peu rassurant que les personnes posent des questions et qu'ils s'intéressent et que ça soit un sujet de discussion. Bon, j'avais quand même l'impression que c'était plus un sujet de débat alors qu'il n'y a pas forcément de débat à avoir. Mais en tout cas, ça en parle et ça veut dire que ça fait partie un peu plus du scope des travailleurs sociaux. Donc moi, dans mes podcasts, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de travailler. Et il y a quelques mois, j'ai fait des recherches sur Twitter sur des personnes qui pouvaient parler de leur genre en lien avec des troubles autistiques. Je m'explique. En fait, ça fait depuis quelques temps maintenant que je me pose la question de la relation entre les transidentités et l'autisme, sachant notamment que la transidentité et l'autisme ont ce passé commun de psychiatrisation traumatique et qui n'est finalement pas que le passé, qui est aussi assez présent actuellement dans la société en France. Donc au cours de mes recherches, j'ai été contactée par Kellig et Scott, qui sont assez présents sur Twitter pour parler de leur transidentité et aussi de leur autisme, et pour parler de l'identité de genre, neurogenre, autigenre. Dans cet épisode, on va donc parler d'autisme et de transidentité, avec le témoignage notamment de Kellig et de Scott. Alors, installez-vous bien, socialisons et écoutons.
Je suis une personne autiste et malade chronique et psychotique, ça fait beaucoup. Et je suis aussi une personne trans, neurogenre plus précisément.
Moi, je m'appelle Scott et je suis autiste et trans aussi. Pareil, je suis neurogenre, donc plus précisément autigenre. C'est quand le genre et l'autisme sont liés. Moi aussi, je suis pareil, je suis malade chronique, je suis borderline aussi, et entre autres, plein d'autres trucs. Et aussi, je suis en arrêt maladie, et j'attends ma réponse de la NDPH pour savoir si je suis éligible à la CHUPA.
Avant tout, est-ce qu'on peut définir le mot transgenre, cisgenre et neurogenre ?
Je pense qu'on peut déjà commencer par rappeler que il y a des personnes qu'on appelle des personnes cisgenres. À la naissance, les médecins ont dit « c'est un bébé fille, c'est un bébé garçon ». Et en grandissant, ces personnes sont allées dans ce sens-là. « Je suis une fille, je suis un garçon ouais. ». Dans une autre catégorie, il y a les personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes où les médecins ont dit « c'est un bébé fille, c'est un bébé garçon ». Et en grandissant, ils se sont dit « je ne suis pas une fille, je ne suis pas un garçon ». Pour simplifier beaucoup, il faut imaginer deux grandes boîtes au départ, les personnes cis, les personnes trans. Dans la boîte des personnes trans, il va y avoir les hommes trans, les femmes trans, les personnes non-binaires. Mmh. Et si on zoome encore plus, dans la boîte personnes non-binaires, il y a plein de choses, mmh. dont ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les personnes neurogenres, c'est-à-dire toutes les personnes avec des neuroatypies, de l'autisme, de la schizophrénie, du TDAH, j'en passe des meilleurs, mmh. Dont le genre est impacté par leur neuroatypie ou leur neuroatypie impacte leur genre, ça dépend dans quel sens on attrape le bébé.
Concrètement, dans votre processus d'identification de votre genre, à quoi renvoie la notion de autigenre?
Pour moi, ça veut dire que quand on me pose des questions sur mon genre, ça ne peut pas être dissocié de mon autisme et de mes neuroatypies de manière générale. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre autrement qu'en parlant de ça, parce que c'est pas dissociable. C'est deux choses qui sont liées depuis très très longtemps. Et c'est ce qui fait le plus de sens quand on me parle de genre.
Ouais, c'est pareil pour moi, en fait, c'est que je vois mon genre juste par le prisme de l'autisme.
Je suis plutôt d'accord avec Scott dans le sens autisme qui influence le genre et pas le... Enfin, pour moi, et pas dans l'autre sens, du coup.
Quelle place a la notion de genre dans leur trouble autistique?
Dans la vie quotidienne, le handicap prime parfois sur le genre dans la perception des gens. Mmh. C'est-à-dire que au lieu, si une personne handicapée va se balader dans la rue, quand une personne va la regarder, au lieu de dire « Ah, c'est un homme, une femme », la personne va se dire « Ah, c'est un handicapé mmh. ». Et du coup, c'est aussi beaucoup cette impression-là que j'ai dans la vie quotidienne, d'être vue également à travers le prisme de mon handicap. Alors maintenant, c'est un peu délicat parce que j'ai une canne aussi. Du coup, c'est pas uniquement vu comme une personne autiste parce que j'ai une canne, il y a par cet aspect-là qui se voit aussi. Mmh. Mais du coup, personnellement, il y a beaucoup le fait de jamais avoir été vraiment perçue comme une fille mmh. ou un garçon. Mais vraiment, toujours être perçue à travers le prisme de, pas forcément de l'autisme, mais il y a quelque chose qui cloche, mais quand vous, il y a beaucoup ce truc de, je regarde cette personne dans la rue et je sais que cette personne n'a pas l'air normale d'un point de vue psychologique.
Mais moi, j'étais déjà auto et hyperdiague avant.
Ouais.
Mais le fait d'avoir vraiment mon diagnostic et tout, ça m'a libéré un peu. Ouais. Et je pense que ça a aussi bien libéré mon genre et tout. Donc, okay. Puis, vu que j'ai commencé les hormones aussi, ça a joué aussi tout ça.
Dans l'épisode précédent de ce podcast, Diag, moi, on parlait du processus de questionnement d'autisme, notamment avec l'autodiag, le père Diag, une façon de s'auto-diagnostiquer et de se père diagnostiquer. Père Diag, ça veut dire des personnes qui sont concernées par l'autisme vont diagnostiquer à quelqu'un un trouble autistique. Donc c'est tout un processus dont on parle dans l'épisode Diag, moi. N'hésitez pas à l'écouter. Pour Kelly Gascott, quel a été le processus de questionnement d'autisme et de genre?
Moi, il n'y a pas eu de cheminement pendant très longtemps parce que j'ai mis très 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 longtemps à comprendre le fait qu'il y avait une notion de genre. Mmh. En gros, j'étais surtout perçue comme une personne, j'ai eu un diagnostic très tard, mais je suis perçue depuis l'enfance comme une personne en dyspsie. Mmh. Et du coup, c'est toujours ce qui a primé et je ne me suis jamais trop posé la question sur ça. Mmh. Globalement, on me voit comme une personne en dyspsie et on dit que je suis une fille, ils doivent bien avoir raison quelque part. Mmh. Quand j'ai commencé à me questionner, c'était vers 20 ans. Et du coup, j'ai eu le parcours assez classique de si je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Du coup, j'ai fait un coming out de mec trans et un an plus tard, un coming out de personne non binaire. Et j'étais pas encore totalement satisfait, mais je me disais que ça doit être ça, du coup on va pas chercher plus. Et puis j'ai commencé à militer beaucoup auprès des personnes handies et surtout handipsies, donc pas seulement autistes. Et j'ai commencé à entendre parler de la notion d'autigenre, de neurogenre, mmh. et c'est ce qui m'a semblé d'un point de vue personnel et militant le plus adéquat. Je pense que ça a ajouté des obstacles parce que j'ai toujours une pensée très rigide, c'est-à-dire pas fille, donc garçon, deux boîtes très différentes. Du coup, si c'est pas l'un, c'est forcément l'autre. La rigidité aussi au niveau du fait que j'ai dit que c'était ça, donc j'ai dit que c'était mec trans, du coup, c'est mec trans, je ne change pas. Donc, j'ai des gros soucis au niveau de mes fonctions exécutives, c'est-à-dire de ma rigidité mentale qui a beaucoup handicapé la chose. Du coup, ça a été très compliqué de changer. Ça a été très compliqué de changer à ce niveau-là, de dire « Ah mais non, en fait, ce n'était pas ça. Ah mais non, en fait, voilà. Mais non, en fait, c'était pas ça. » Et du coup, ça a été assez compliqué à ce niveau-là.
Je l'ai dit au début de l'épisode, l'autisme et la transidentité ont ce passé commun de psychiatrisation, où il y a encore assez récemment, les personnes autistes étaient orientées vers des hôpitaux psychiatriques parce qu'il n'y avait pas de place dans des structures adaptées, et où l'autisme était perçu comme une maladie mentale qu'il faut soigner avec la psychiatrie. Pour la transidentité, c'est encore quelque chose de très très récent, puisque ce n'est qu'en 2019 que la transidentité a été retirée des maladies mentales de l'OMS. En tant que professionnelle du social, travaillant potentiellement avec des personnes autistes et des personnes transgenres, je me posais la question de comment Scott et Kellig voyaient la prise en charge professionnelle, sociale et médicale des personnes autistes en questionnement de genre.
Alors, c'est un peu particulier parce que mon diplôme est un diplôme équivalent à l'IUT. Donc en fait, j'en ai côtoyé, mais pas en tant que, bien sûr, en tant que personne autiste, mais pas en tant que la personne accompagnée. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a des choses intéressantes à dire parce que j'ai travaillé en institut médico-éducatif auprès de jeunes autistes, pas plus autistes qu'il y avait d'autres parties d'enfants, mais du coup auprès de jeunes qui ont un trouble du développement intellectuel. Et c'est vrai que la question du genre n'est pas du tout abordée. Ni même de l'homosexualité, de la bisexualité, etc. Parce que très souvent, c'est considéré que les ados, parce que c'est une question qu'on n'a pas avec les ados, très ados, parce qu'il y a souvent la question qui revient en IME qu'il faut réfléchir à ces questions-là, et soi-disant que ces adolescents, jeunes adultes, n'auraient pas les capacités, je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, mais ça se voit pas, n'auraient pas les capacités cognitives de réfléchir à ça. Et du coup, ce que j'ai beaucoup vu chez les enfants autistes avec un trouble de développement intellectuel en plus, enfin, enfant, je dis enfant, mais c'est ado, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, mais là, je parle plus d'ado, c'est que quand c'est des personnes autistes avec un trouble de développement intellectuel qui ont ce genre de questionnement, c'est tout de suite mis sur le dos de l'autisme, mais d'un côté pathologique, c'est-à-dire c'est normal, ils comprennent pas les normes de genre, ils sont autistes, mais du coup, si c'est un enfant assigné-fille, ça va être, c'est une petite fille, mais c'est juste, elle comprend pas les normes de genre, elle est autiste, ou c'est un petit garçon, il comprend pas les normes de genre. Du coup, c'est un privilège, je trouve, qu'on a en tant que personnes autistes qui sont pas en institution, d'avoir le droit de réfléchir à ce niveau-là, alors que des ados, des jeunes adultes, en institution, là où j'ai travaillé, c'est très compliqué. Parce qu'il y a vraiment le côté, ils n'ont pas les capacités intellectuelles de réfléchir là-dessus. Et puis, il y a aussi également le fait qu'en psychiatrie, très souvent, c'est perçu comme, pareil, comme pour les ados, etc., dont je parlais, c'est perçu comme pathologique et une preuve supplémentaire qu'on a des soucis. Je parle, par exemple, pour toutes les personnes schizophrènes, toutes les personnes... avec des délires dont je fais partie, par exemple, ça va rajouter au côté pathologique, au côté du fait qu'on doit être institutionnalisé, surtout quand on commence à parler du fait qu'on n'est ni une fille ni un garçon et que nos pathologies impactent notre genre.
Quand j'étais hospitalisée, la dernière fois, c'était ma volonté. Mais je pense que... Je sais en fait que même si à un moment donné je serais sûrement interné de force si j'ai des problèmes, je sais qu'en fait ils prendront pas en compte mes difficultés, que la plupart du temps ils sont pas formés déjà sur l'autisme, la plupart du temps les psychiatres ils y connaissent rien alors que vous en faites 12 ans d'études quoi. Et puis sur la transidentité on en parle même pas parce que oulala. Moi, j'ai un ami Ils ont dit qu'il était psychotique parce qu'il était trans, donc au bout d'un moment, je comprends toujours pas le cheminement de pensée pour arriver à ça.
Et alors, comment vous voyez la psychiatrisation de l'autisme et de la transidentité?
En fait, ça a changé quasiment rien pour les personnes trans. On est toujours vu comme des malades mentaux par la société, en fait, donc ça change pas grand-chose au final. Et dans la finition, ça serait que tout ça serait psychiatrisé, quoi. Mais ouais, ça va prendre du temps.
C'est important de parler de l'autisme et du genre, mais que c'est selon moi encore plus important de parler des maladies mentales, des maladies cognitives, des pathologies, des syndromes. Je mets tous les mots dans ce paragraphe, enfin, j'attends que l'autisme n'est pas une maladie, mais du coup, toute la sphère, tout ce qui est cognitive, c'est important de parler de l'impact que ça peut avoir sur le genre. Et pas seulement se centrer que sur l'autisme. Et que c'est vraiment quelque chose que je reproche un peu en ce moment de se centrer que sur l'autisme. Alors ça m'arrange parce que c'est pas la première interview du genre que je fais et du coup à chaque fois j'en parle. Et du coup il y avait ce point-là, donc plutôt se centrer sur les pathologies, les maladies mentales, les maladies cognitives et le genre. Et aussi ne pas oublier que c'est des choses qui, pour l'autisme, qui sont pas propres aux autistes qui n'ont pas de troubles du développement intellectuel. Que c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, enfin tout le monde, qui peut potentiellement concerner toutes les personnes autistes. Et qu'au final, c'est pas quelque chose où on doit chercher des avancées uniquement pour les personnes autistes qui ne sont pas en institution ou pas psychiatrisées. Et pareil pour les personnes qui ne sont pas autistes. On ne doit pas chercher à ce que la transidentité des personnes autistes qui ne sont pas institutionnalisées, qui ne sont pas psychiatrisées, soit bien vue, tandis que la transidentité des personnes autistes ou des personnes malades mentales qui sont psychiatrisées, qui sont en institution, elles, on la passe sous le tapis. C'est quelque chose où on doit en parler dans sa globalité. Et c'est pas facile parce que, bah, par exemple, il y avait une personne qui voulait parler, mais qui ne pouvait pas parce que c'était dans un cadre institutionnel, etc. Et du coup, c'est compliqué. Cette personne ne pouvait pas en parler, et c'est une personne à qui on ne va pas donner la parole, à qui ça va être plus compliqué. Du coup, je tenais juste à réinsister là-dessus et je vais laisser le mot de la fin à Scott.
Merci beaucoup, Camille.
Moi, je veux surtout aussi rappeler aux gens que si, surtout aux personnes trans qui sont pas malades mentales, que si elles veulent vraiment se dépsychiatriser, etc., déjà, il va falloir le faire avec nous. Et ensuite, il va falloir qu'elles se renseignent sur l'antipsychiatrie. Parce que c'est pas en disant juste oui, on n'est pas des malades mentaux que ça va fonctionner, en fait. Et voilà, et du coup, il faut se renseigner, lire des choses. Malheureusement, la plupart des livres et des trucs sont en anglais, mais il faut lire des livres genre On Our Own de Jody Chamberlain, par exemple. Des trucs comme ça, et il faut arrêter de jeter les malades mentaux sous le bus. Ça serait bien.
En fait, l'idée, ça serait peut-être de décaler l'accompagnement social de la psychiatrie, c'est-à-dire de penser autrement l'autisme que par le biais de la psychiatrie, mais aussi de prendre conscience que la société n'est pas adaptée aux personnes neuroatypiques et que souvent la réponse, c'est la psychiatrie, parce qu'on n'a pas assez de structures adaptées pour les personnes autistes. Je le vois aussi dans les structures du social et du médico-social, la question du genre et de la sexualité des personnes en situation de handicap et des personnes autistes n'est vraiment pas abordée. Comme si c'était quelque chose de tabou complètement dans les structures. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à former les travailleurs sociaux, les futurs travailleurs sociaux, sur cette question des transidentités, de l'autisme, et plus communément de la notion de genre dans la santé mentale, ce qui nécessite forcément de bousculer les stéréotypes, de bousculer les repères que l'on a déjà dans cette société. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre les comptes Twitter de Kellig, de Scott, mais aussi de Mad Freaks Pride et celui de Freaks sur Twitter. Merci à Kellig et à Scott pour leurs mots, pour leur témoignage. Vous pouvez maintenant noter mon podcast sur Spotify, Apple Podcast et d'autres plateformes. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur mon Insta, m'as-tu vu pour podcast. À très vite pour un prochain épisode. Merci. Yeah.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.